Pouvant cette rentrée, je vais procéder à l'appel. Madame Marie-Andrée Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero, Madame Laure David-Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée, m'a donné pouvoir. Monsieur Hervé Flaugère. Présent. Monsieur Ron Garcia. Présent. Monsieur Jean-Louis Grappin est excusé, a donné pouvoir à Monsieur Benoît Sanchez. Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé, a donné pouvoir à Monsieur Hervé Flaugère. Madame Myriam Gutiérrez est excusée, a donné pouvoir à Madame Françoise Bouclet. Madame Florence Jouve-Lavolée est excusée, a donné pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal. Monsieur Jean-Pierre Lambertin est excusé, a donné pouvoir à Madame Anne-Marie Souveton. Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy. Présent, je serai obligé de vous quitter à 8h. Très bien. Monsieur Christian Perron, présent. Monsieur Joël Racamier, présent. Monsieur Claude Raoux, présent. Madame Cathy Ricard, présent. Madame Bruna Romagnini est excusée de donner pouvoir à Madame Marie-Andrée Altier, Monsieur Benoît Sanchez, présent. Madame Anne-Marie Souveton. Madame Virginie Vicente est excusée à donner pouvoir à Monsieur Christian Perron et Monsieur André Vicli. La première question concerne le secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée communautaire de désigner son secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 2. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Question numéro 3, il s'agit de voiries reconnues d'intérêt communautaire. Nous avions délibéré dans le cadre du Conseil communautaire du 13 mars 2018 et vous aurez corrigé la coquille sur le nom de Lucie Aubrac qui a été écrit avec un Y et non pas avec un IE et je m'en excuse. Et il est proposé de modifier cette délibération en y ajoutant donc la voie qui relie Mondragon à Bolène, l'avenue du 8 mai 1945, et en y ajoutant donc l'avenue Sadi Carnot et la parcelle au droit de l'école Giono, école Giono qui est déjà intercommunale. Donc il est proposé de modifier cette délibération, d'ajouter les éléments de route que je viens de vous préciser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 4, il s'agit de conventions triennales 2022-2025 et entre nous et l'État pour l'ouverture d'un club jeune. Madame Arnaud, vous avez la parole.
C'est ça. Merci. Bonsoir tout le monde. Vu que le Code général des collectivités est l'article cité du Code de l'action sociale et des familles, la convention triennale 2022-2025, considérant qu'en Vaucluse, le service de l'État en charge de la jeunesse depuis 2004 impulse et soutient les projets des associations et collectivités locales en direction de la jeunesse du territoire, de nombreuses propositions en direction des préadolescents et adolescents se sont développées sur le territoire départemental. Ces accueils en Vaucluse ont la particularité de s'adresser à des jeunes de 11 à 17 ans révolus. Cette convention est obligatoire pour l'accueil, que l'accueil soit reconnu comme club jeune, que celle-ci vise à formaliser le fonctionnement de l'accueil et à définir l'encadrement en accord avec le service départemental de la jeunesse, à l'engagement et au sport. Ce cadre conventionnel proposé en Vaucluse inclut les 11-13 ans. Il nous impose désormais une double déclaration administrative, ALSA Shadow et Accueil Jeune, pour répondre aux exigences de la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Les impératifs d'encadrement et de qualification en fait, ne changent pas. Ces deux modes d'accueil complémentaires offrent une proposition permettant de faire cohabiter dans un même lieu un accueil de loisirs dédié et réfléchi avec les préadolescents et adolescents et d'un projet plus large, dépassant la seule question des loisirs, ouvert sur d'autres champs intéressant la jeunesse et son autonomie. Cette réflexion autour de la jeunesse s'inscrit dans une logique de continuité éducative visant la complémentarité des propositions au service des préadolescents et adolescents et peut trouver naturellement sa place dans le cadre de la mise en œuvre des politiques éducatives territoriales. Considérant que ces deux modes d'accueil se trouvent sous l'appellation Club Jeune, mais proposent des objectifs et des cadres réglementaires différents. Aussi, pour l'accueil de loisirs des pré-ados et ados de 11-14 ans, s'attache à accompagner les jeunes dans leurs accès aux loisirs en les impliquant progressivement dans les actions qui les concernent. Dans ce cadre, des activités préparant à l'autonomie, distantes de la structure ou du lieu regroupement habituel, prévues pour une durée limitée par un petit groupe de jeunes, restent possibles. Les participants, accompagnés par l'équipe éducative, préparent et organisent le séjour. Concernant l'accueil jeune 14-17 ans, il se distingue de la LSH ado par la nécessaire implication et la participation directe à la conception, à la mise en œuvre de leur propre projet d'accueil. Il est conçu avec les jeunes comme une plateforme ayant pour objectif la réponse à leurs besoins. Sous ce terme sont regroupés de nombreux types d'organisations avec des fonctionnements différents et des propositions multiples, mêlant souvent activités individuelles et activités collectives, temps d'échange informel aux horaires souples et ateliers spécifiques, permanents ou non, activités en totale autonomie et accompagnement des jeunes dans la réalisation de projets. Ce peut être à la fois un lieu de rendez-vous, un lieu de vie, un lieu d'information, un lieu d'activité pour les jeunes. Dans tous les cas, sa vocation éducative est affirmée. Le Conseil communautaire est donc invité à approuver les termes de la convention triennale 2022-2025 avec l'organisateur et le représentant de l'État pour l'ouverture d'un club jeune et d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à cette convention.
Merci Madame Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 5, il s'agit d'aménagement, notamment sur l'inventaire des zones d'activité. Monsieur le Premier vice-président.
Oui, bonsoir à tous. Merci, Président. Effectivement, il s'agit de lancer un inventaire sur les zones d'activité conformément à la loi 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi climat et résilience, et d'intégrer au PLU les objectifs fixés par cette loi. Donc elle porte sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforce la résilience face à ses effets. Elle vise à accélérer la transition écologique et la société ambitionne d'inscrire chaque territoire dans une trajectoire de sobriété foncière. Donc objectif zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Donc, parmi ces dispositions, on retrouve en matière d'urbanisme l'obligation pour l'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique d'établir donc un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence. La communauté de communes Rhône-Lez-Provence se doit donc d'établir un inventaire des zones d'activité économique situées sur son territoire. Donc, conformément au 2 de l'article 220 de la loi, cet inventaire devra être engagé par la communauté de communes Rhône-Lez-Provence dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 22 août 2022 au plus tard. Il devra être finalisé dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 22 août 2023. Dans ce cadre, l'article L318-8-1 du Code d'urbanisme précise la définition d'une zone d'activité. Donc, sont considérées comme des zones d'activité économique au sens de la présente section, les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, mentionnées aux différents articles du Code général des collectivités territoriales. Vous avez devant vous l'article L318-8-2 du Code de l'urbanisme présente quant à lui les éléments obligatoires que devra contenir cet inventaire. En 1, un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière, et l'identification du propriétaire. En 2, l'identification des occupants de la zone d'activité économique. Et en 3, le taux de vacance de la zone d'activité économique calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation des entreprises prévue à l'article 1447 du Code général des impôts depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. Conformément aux obligations légales fixées par la loi, cet inventaire comprendra pour chaque zone d'activité économique du territoire, donc les trois que je vous cite pas, un état parcellaire, l'identification et le taux de vacances. Vu la loi 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces efforts, vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L318-8-1 et L318-8-2, il vous est demandé d'approuver le lancement de l'élaboration de l'inventaire des zones d'activité économique sur le territoire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence.
Merci, Monsieur Sanchez. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 6 s'agit du rapport d'activité annuel 2021 du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Monsieur Garcia.
Bonsoir à tous. Merci, Président. Il s'agit du rapport d'activité 2021 du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Je vais vous passer quelques vues. On va aller à l'essentiel. Vu les statuts du syndicat mixte du bassin versant du Lez, vu le rapport d'activité 2021 du syndicat mixte bassin versant du Lez, considérant que les établissements publics de coopération intercommunale doivent adresser chaque année aux communes membres un rapport retraçant leur activité, considérant que ce rapport doit faire l'objet d'une communication à l'organe délibérant des communes membres, le conseil communautaire est invité à prendre acte du rapport d'activité 2021, joint dans l'annexe. À vous.
Y a-t-il des observations, Monsieur Raoux ?
Dans quelques jours, nous allons voir l'anniversaire des 29 ans de l'inondation catastrophique de Bolène. Et 29 ans après, Bolène n'est toujours pas protégée. Alors, se posent quand même des questions fondamentales, parce qu'on s'aperçoit de quoi ? Qu'en fait, ce syndicat du Lez, c'est l'administration, les technocrates qui ont le pouvoir, un peu comme ailleurs dans le pays. Et on s'aperçoit que de commission en décret, en réglementation et tout, et bien le dossier il continue à avancer tout doucement, et on a l'impression que l'administration se nourrit elle-même. Quand tout semble rouler au dernier moment, ils se pondent un petit règlement et tout, et on recommence et on repart à zéro. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très triste que de voir ici, comme dans ce pays, que les politiques ont zéro pouvoir. C'est l'administration qui dirige le pays et non pas les élus. Et ça se vérifie à tous les niveaux. Ensuite, je voulais souligner aussi un autre fait, c'est que nous avons siégé pendant 12 ans au syndicat du Lez. Nous avons été écartés de toute responsabilité, présidence, vice-présidente. Et tout ça est quand même particulier parce que nous avions, contre Bolène, nous avions la totalité des communes du versant du Lez qui s'étaient toutes liguées contre Bolène. Alors que Bolène est la ville la centrale, la ville la plus importante, la ville qui a le plus souffert des nations, la ville qui a porté les plus gros financements. Et cette coalition, comme par enchantement, lorsque nous avons été plus au pouvoir à Bolène, le sauveur est arrivé, M. Zillot, maire de Bolène, s'est retrouvé président du SBVL. Alors, on peut remercier toutes les communes du bassin versant de leur choix et de leur travail. Et pour conclure, que je mets en doute le fonctionnement du syndicat du Lez, tout récemment, on croyait que l'affaire était entendue, qu'enfin les travaux pouvaient avoir commencé, parce que depuis 2015, on nous les promet chaque année à l'automne. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans le dernier compte rendu du syndicat du SBVL ? Que les deux lots qui permettaient de lancer les travaux avec l'offre d'achat, les deux lots, le premier lot, eh bien, qui est à plus de 5 millions d'euros hors taxes, on s'aperçoit qu'il est annulé parce qu'il semblerait que l'entreprise qui postula n'ait pas la dimension judiciaire voulue. Et l'autre 2 aussi, qui concernerait les travaux, eh bien, ça a été les entreprises qui ont donné leur proposition, ont été écartées en disant qu'ils ne répondaient pas à tous les critères. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça vient des entreprises qui n'ont pas les compétences ou est-ce que ça vient du syndicat qui n'est pas capable de produire un cahier des charges pour que des entreprises puissent répondre. On ne pourra pas nous dire que dans ce territoire, il n'y a pas des entreprises qui tiennent la route et qui peuvent répondre à un cahier des charges. Alors la question reste entière. Et je regrette, Bolène n'est toujours pas protégée.
Un bon pas.
Oui.
Effectivement, on ne peut toujours pas le micro. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit fait exprès. Alors, voilà, monsieur Raoult a parlé avec son cœur et Dieu sait qu'il a été à la marge, comme il vient de l'expliquer, inclus dans ce syndicat, mais sans le droit à la parole, sans le droit de quoi que ce soit, sauf d'avoir de recevoir des colibés et des insultes, comme c'est souvent le cas. Et il a parlé avec son cœur, et je dois dire que il a eu confiance à un moment en vous, au début. Je ne crois pas me tromper, Claude. Tu as pensé qu'effectivement, quelque chose allait changer. Je l'ai laissé faire, il était l'élu en charge du dossier, et je crois qu'on a ressenti dans ses propos toute la déception, toute la rancœur même qu'il peut y avoir maintenant à avoir fait confiance à des gens qui l'ont mené en bateau rapidement. Parce que, en fait, quand on regarde bien, le SMBVL, c'est vous, la GEMAPI, c'est vous, la ville de Bolène, c'est vous, monsieur Zilio, j'entends bien. La CCRLP, c'est vous. Le département, c'est vous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour agir? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour répondre aux angoisses que M. Raoult a décrites aujourd'hui, ce soir, et qui sont partagées par beaucoup de riverains encore? Beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut de plus de tous ces pouvoirs? Mais vous avez l'habitude, on le verra tout à l'heure, de faire reposer vos responsabilités sur les autres. Alors, le temps passe et vous allez avoir de plus en plus de mal à cacher vos responsabilités directes. Les habitants ouvrent petit à petit les yeux. Votre politique coûte cher. Votre politique du SMBVL, l'autre aussi. Hein. Vous coûtez très cher aux Bolénois qui n'en ont malheureusement pas pour leur argent. La ville de Bolène, puis la CCRLP, ont toujours été les plus gros contributeurs au SMBVL. Claude l'a souligné, mais je voudrais bien le marquer, effectivement. Hein, les Bolénois payent depuis de longues années. Je rappelle que pour les travaux, Bolène a versé 4 millions d'euros et demi ou 4,7 millions de budget sous mon mandat. 4,7 millions. Les travaux ne coûtent sûrement pas autant. Donc, y a des sommes pharaoniques qui ont été versées, mais la ville n'est toujours pas protégée. Et effectivement, un sombre anniversaire se profile au mois d'octobre. Et c'est d'autant plus grave que vous êtes le porte-parole d'un gouvernement qui constate qu'il y a des dérèglements climatiques, qui veut éduquer les enfants, les parents, les grands-parents, à faire attention à tout, et que malgré tout, ici, dans cette sphère que vous dirigez complètement, rien n'est fait. Alors, depuis 1993, je voudrais que, comme Claude, que chaque élu autour de cette table, parce qu'il y a eu la mode du Rhône aussi, qui a passablement souffert, du Rhône, c'est vrai, enfin, malgré tout, tout ça est lié. Alors, on attend du concret. Claude l'a dit également. Vous avez fait des annonces en 2016, vous en avez fait une en 2018, vous en avez fait en 2020. On a gardé tous les fascicules, là. Ça débute. Et je crois que la dernière fois que vous nous avez annoncé des travaux, c'était pour juillet de cette année 2022. On va voir ce qu'on allait voir. Mais je ne crois pas, si peut-être des pelles sont actuellement à l'ouvrage. Mais voilà. Donc, et j'ajouterai pour terminer, on se pose la question sur la sincérité du budget du SMBVL, parce que quand même, quand vous affichez 5,8 millions d'euros de crédit ouvert en investissement et que vous n'en réalisez que 790 000, soit 13% de la prévision, pardon, c'est quand même... La sincérité du budget, là, quand même, est en vrille. Mais vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est les chiffres. Hein. Tout le monde peut les retrouver dans le budget du SMBVL, toujours, évidemment. Alors, il est plus facile de faire des annonces sur papier glacé, posées en photo, avec des cirés et des bottes, les jours de pluie, mais je crois que ça ne convainc plus personne. Si certains ont été convaincus, là, vous apportez la preuve de votre déficience généralisée. Voilà.
Bien, je vais vous répondre. Alors, s'il y a bien une personne qui n'a pas convaincu, et au sénatorial et aux élections municipales, et même au départemental, en étant éliminée dès le premier tour du scrutin, c'est bien vous, chère madame. Mais je vais vous répondre parce que nous, mais attendez, madame, vous avez eu le temps de lire votre texte qui vous a été rédigé. Moi, je vais vous répondre point par point sur la question du LES, parce que contrairement à vous qui nous avez annoncé hier que vous veniez 3 jours par mois à Bolène, nous, nous y vivons au quotidien. Et, mais madame, et nous y sommes au quotidien. Vous êtes la seule ici qui, quand elle pose la tête sur l'oreiller le soir, est en dehors du territoire de l'intercommunalité. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui peut se garder de nous faire des commentaires sur la gestion de notre territoire, si vous voulez, c'est bien vous. Mais je vais vous répondre parce que M. Raoult, j'ai travaillé avec lui. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il a voté depuis 2018 que je suis président du LES. Tous les budgets du syndicat du LES ont été votés par Claude Raoult. Alors, d'ailleurs, il y avait ce jeu de dupes, mais en fait, qui a dupé personne puisque... il dit voter le budget, mais lorsqu'il est assis à côté de vous en séance du conseil, il est obligé de mettre un coup de canif parce que vous n'acceptiez pas qu'il dise du bien de la protection de Bolène. Je vais vous dire 2 choses. D'abord, vous avez dit 5,7 millions de cotisations que vous avez versées. C'est tout à fait normal. Le projet coûte 8 millions d'euros de terrassement. Donc, vous voyez quand même que vous êtes bien loin des chiffres que vous avez dit. Le projet, il y a 5 minutes, ne coûtera même pas 5,7 millions. Il en coûte bien plus. Il est totalement financé par l'État. Il est labellisé par le programme d'aménagement de protection des inondations. Et donc, ce qui m'agace, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que pour une fois, pendant, vous l'avez dit, depuis 93, puisque vous avez souligné les 29 ans, je rappelle que sur ces 29 ans, vous y êtes resté 12, et que vous me pardonnerez d'être maire que depuis 2 ans, et donc d'être aux responsabilités du syndicat depuis 4 ans, dans lequel je veux juste dire, et Claude Raoult, vous pouvez même le secouer, lui gratter l'épaule, l'inciter à parler. Il est conscient parce qu'il connaît mieux le dossier que vous. Non, je ne vous donnerai pas la parole parce que vous avez largement parlé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la question de la protection du LES, M. Raoult, même si vous avez toujours été d'accord sur les budgets qui se sont succédés, je veux juste préciser une chose. D'abord, en 2018, contrairement à ce que vous avez dit, Bolène arrivait à la présidence du syndicat du LES. Alors, vous me pardonnerez parce que je ne siégeais pas au syndicat du LES. Avant 2018, je n'y ai jamais siégé, si bien que les élus qui étaient fléchés, c'était des élus qui étaient fléchés par le maire de Bolène et le conseiller municipal, et que par conséquent, je n'avais pas lieu d'y être. Donc je ne sais pas comment vous vous débrouillez avant, même si j'ai un peu compris, parce que depuis j'ai rencontré votre premier adjoint Paul Aymar, qui m'a expliqué votre manière de travailler sur le mandat 2008-2014, et qui explique peut-être pourquoi aussi vous avez été rejeté de pas mal de communes, qui d'ailleurs... qu'elle soit de Grillon, de Richerange ou d'ailleurs. Mais M. Aymar est quand même plus à même de parler de ça que moi qui n'étais pas dans les couloirs de la majorité municipale. Mais ce qui est sûr qu'aujourd'hui, c'est que entre le projet initial qui avait été mis, et vous le savez, M. Raoult, qui était sur une servitude d'utilité publique de 400 hectares, puisque au début, nous avions pris ceux d'avant, la totalité des hectares pour faire le projet. Aujourd'hui, nous l'avons réduit à 60 hectares. Avant, il y avait un cabinet d'avocats. Désormais, nous passons, et la SAFER est de gré à gré, ce qui fait que nous avons 98% du foncier qui est aujourd'hui propriété du syndicat du LES. Qu'en effet, nous avons lancé le dossier de consultation des entreprises pour les travaux. D'ailleurs, si vous aviez lu le marché, vous auriez vu que le montant n'est pas à 5,7 millions, mais à 8. Et surtout, sur la volonté de faire en sorte d'avancer sur ce dossier, parce que notre seule volonté, c'est celle de protéger les Bolénois et les habitants du bassin, parce qu'il y a les Bolénois, mais il y a aussi sur le bassin de Valréas, puisque le syndicat du LES va jusque là-haut. Donc, sur ce sujet-là, nous avons fait les autorisations. Je veux juste rappeler que sur l'année 2021, il y a eu plusieurs points qui sont complètement qui sont importants. D'abord, en 2020, l'enquête publique, c'était jamais arrivé, puisqu'on a parlé beaucoup de projets. Il y a eu des modélisations sur des maquettes, il y a eu des directeurs qui se sont succédés, etc. Nous avions enfin, en 2020, l'enquête publique qui a été rendue. En février 2021, il y a eu un arrêté de déclaration d'utilité publique du projet, ce qui n'avait jamais été fait. Il y a eu un dossier loi sur l'eau en avril qui a eu un avis favorable par les services de l'État. Il y a eu, en septembre dernier, septembre de l'année donc 2021, une réunion avec les deux DREAL, puisque la particularité c'est qu'on a deux administrations qui partageaient pas la même lecture du projet, donc il y a eu la DREAL de la Drôme, il y a eu deux CODERST, le CODERST de la Drôme du Vaucluse, qui partageaient pas la même lecture. On a des personnes qui en plus ont voulu profiter du projet pour rajouter des aménagements qui n'étaient pas prévus, je pense notamment à Saint-Turquois sur la commune de Suze, qui n'était pas prévu dans le projet de protection et qui s'est vu rajouter en CODERS 26, qui a fait qu'il a fallu repartir à la préfecture, et nous avons mis en parallèle les démarches foncières. Bon, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, nous avons lancé le dossier de consultation des entreprises sur les travaux de terrassement.
Nous avons l'autorisation de DUP. Nous avons les autorisations de servitude d'utilité publique. Nous avons finalisé sur la première tranche, c'est-à-dire l'aval du pont de Chabrières. Nous avons validé la totalité des acquisitions. Nous avons donc pu avancer sur la question du phasage aval du pont de Chabrières, pont de Verdun, pont de Chabrières, pont de Verdun, pont Paul Romègue, et ensuite toute la partie sud de la Rousse, pont Paul Romègue, où, je le redis, il y a un travail qui a été fait sur le fait de rebasculer la passe à poisson d'un côté à l'autre de la rive du Lez. Sur ces sujets-là, aujourd'hui, nous attendons la décision. Vous avez, je vous rejoins sur ce que vous... Mais je ne vais pas, contrairement à ce qui a pu se faire par le passé, taper toujours sur les autres. On attend une décision de l'État sur la question des autorisations de dérogation des espèces protégées, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des espèces protégées sur l'aval du pont de Chabrières, qu'ils n'avaient sûrement pas découvertes avant, des chauves-souris, des lézards osselés, de toutes ces belles choses qu'il faut protéger. Et ces espèces...
L'espèce humaine aussi est protégée.
Exactement. Mais j'entends ce que vous dites, et c'est très particulier, parce que quand vous mettez les associations de pêche, de chasse, de ceux qui veulent protéger les canards au droit de la chapelle Notre-Dame-du-Pont, de ceux qui, comme M. Trommel, qui habite sur le chemin d'Entraigue et qui veut lui plus vivre ce qu'il a vécu en 93 et qui préside l'association des sinistrés de 93, le pêcheur qui veut des arbustes dans le Lez parce qu'il veut de l'ombre pour qu'il y ait encore des poissons, et on voit à quel point ça a été utile cet été, même si tout le monde nous dit tous les jours il faut abattre ces petits arbustes, il faut abattre ces petits arbustes. Si on ne l'avait pas fait, je pense qu'on aurait eu encore plus de morts de poissons cet été, vu le niveau de l'eau qu'il y avait dans le Lez. Alors, moi je veux bien entendre tout ça, et je pourrais dire que fait la préfecture, que fait la nouvelle préfète, etc. Mais je pense que c'est pas responsable. Donc je préfère qu'on discute sur les dossiers. Les espèces de dérogation des espèces protégées va arriver, le dossier est fait, le mémoire a été rendu, tout est donné au service de l'État. On attend la dernière décision qui vient de la direction départementale des territoires et qui doit donner son dernier avis sur la validation des travaux dont, vous l'avez dit, la commission d'appel d'offres d'ailleurs a été présidée par André Vigli au syndicat du Lez sur les travaux. Donc tout est prêt, je dirais qu'on attend cette décision-là. Alors certes, on est dans une période de forte pluie méditerranéenne intense. Certes, les ruissellements, les écoulements qu'on a pu avoir les semaines dernières, etc., j'en suis totalement conscient. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des paramètres qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Si je n'avais pas fait mon job, si on n'avait pas avancé sur les travaux, je dirais que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons fait les travaux et nous avons avancé l'ensemble des travaux depuis septembre 2021, que nous attendons l'autorisation de démarrer les travaux. Puisque c'est à cette date-là, avec le sous-préfet Didier François, en sous-préfecture de Carpentras et de Dréal, qui nous a dit « vous pourrez commencer les travaux au 1er juillet ». 1er juillet, passation de préfet qui est parti le 29 août, directive de la préfecture qui nous dit « il nous manque un dossier sur l'arrêté des espèces protégées ». Vous avez tout, loi sur l'eau, loi impact, arrêté de DUP, il manque une particularité, c'est celle de l'arrêté des espèces protégées, où on doit... rééquilibrer l'espèce des chauves-souris sur la partie aval du pont de Chabrières pour peut-être recréer des nids de chauves-souris sur la partie sud ou ailleurs sur le projet. Donc c'est ça le débat. Alors certes, je suis d'accord avec vous que certaines fois, on pense plus aux lézards osselés, à la chauve-souris, qu'à ceux qui ont pris de l'eau dans leur maison et aux populations qui ont été impactées. Mais les faits sont ceux-là. Et quand bien même je resterai ou ferai une grève de la faim devant la sous-préfecture de Carpentras, je ne suis pas certain que je sois entendu. Donc, sur cette question-là et la prise de fonction du 29 août du nouveau sous-préfet de Carpentras, Bernard Roudil, il a décidé de faire avancer le dossier, puisque je lui ai dit maintenant qu'on a les finances. Avant, on n'avait pas les financements et on avait le projet, par le passé. Là, les fameux 400 hectares, mais on ne savait pas comment les financer. Aujourd'hui, on a le financement de l'État, les 2 millions de la communauté de communes et les dispositifs de l'agence de l'eau qui nous aident à hauteur de 50% et qu'on remercie. Et nous n'avons pas les autorisations qui vont bien. Voilà. Si bien que je peux comprendre que ce soit rageant, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de sincère, contrairement à votre collègue. Et je pense que sur ces questions-là, nous pouvons avancer. Et le sous-préfet viendra prochainement pour discuter de ce dossier-là, pour lancer cette phase-là qu'on attend dans les périodes que vous connaissez, puisque ça aussi, on peut commencer des travaux en respect de la faune et de la flore. Du mois de mars jusqu'au mois d'août, on n'a pas le droit de toucher ni à la faune ni à la flore du Lez, parce que c'est des directives voilà, pour ne pas toucher les milieux, les habitats, les nids, les oiseaux, les hérons, etc. Et donc, par conséquent, voilà où c'est que nous en sommes. Donc, sur le rapport annuel 2021, je rappelle que beaucoup a été fait, c'est une année où beaucoup a été fait sur la question du projet, à la fois sur tous les arrêtés, sur toutes les DUP et sur l'avancée des travaux qui s'opèrent, mais dont on attend l'autorisation. Et on ne peut pas attaquer des travaux sans avoir des autorisations, comme j'aimerais d'ailleurs griffonner l'atterrissement devant le pont de Chabrière. J'ai voulu le faire au lendemain des ruissellements la semaine dernière, et où la police de l'eau, la DREAL, la DDT m'ont formellement interdit de faire entrer quelconque ou appareil motorisé dans le lit du Lez pour venir aplanir et griffonner, comme ils le font en Ardèche ou sur le pont Saint-Esprit, l'atterrissement devant. Donc j'entends ce que vous dites, mais il y a ce que je peux faire et il y a ce que j'ai le droit de faire. Et tant que je n'ai pas le droit de le faire, je ne le lance pas. Et c'est pour ces raisons-là que ça n'avance pas. Mais entre les 29 ans de 93 à aujourd'hui et les 4 années qu'on vient de passer et du travail considérable qui a été fait, je ne peux pas vous laisser dire que c'est le politique qui bloque. Je crois qu'au contraire, nous avons, un, pris nos responsabilités et c'est convaincu tout le monde à voter pour qu'un Bolénois prenne la présidence parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance, contrairement à ce que vous dites. Et troisièmement, que l'État nous accompagne sur la protection de Bolène et qu'elle nous délivre les autorisations. Je crois qu'on est sur la bonne voie. On attend le feu vert et il devrait arriver. Monsieur Sanchez.
Oui, très rapidement, merci. Moi, juste, je voudrais résumer. J'ai été élu en 2001 à Mondragon et j'ai siégé très rapidement à ce qu'on appelait le syndicat de l'Est ou en tout cas ce qui avait été créé et tout. Et c'est vrai que j'ai tout vu dans ce syndicat. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, etc. Et vraiment, vraiment, je pense que le maire de Bolène, même s'il est président de l'Interco, et il nous le dit bien ce soir, qui est aussi président du LES et qui est conseiller départemental, qui peut mieux défendre ce projet et qui peut défendre le LES à Bolène, madame, à part un Bolénois, effectivement. Et je crois qu'on est tous confrontés à ce problème, je dirais, un problème, mais est-ce que c'en est vraiment un, de réglementation, d'obligation et de tout ce que, malheureusement, on nous impose. Mais très honnêtement, pour y avoir siégé en tant que suppléant, puisque je suis suppléant là maintenant, là, je trouve vraiment, vraiment qu'il y a un excellent travail qui est fait. Et moi, je vous demande juste maintenant d'en attendre le résultat. Vraiment. Voilà.
Merci, nous avons pris acte de ce rapport. La question suivante, il s'agit de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets ménagers sur l'année 2021. Et donc, Madame Ricard, vous avez la parole.
Merci, Président. Chers collègues, considérant que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont l'obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce rapport, donc, sera remis après validation par le Conseil communautaire de ce soir aux communes membres afin qu'il soit présenté aux conseils municipaux pour information et qu'il puisse être mis à disposition du public dans chaque commune. Donc ici, il n'est pas question de délibérer, mais bien de prendre acte d'un rapport qui nous liste l'état de la situation sur cette compétence. Je voudrais ici profiter de ce moment de bilan de l'année 2021 pour remercier les membres de la commission que je préside, la commission des déchets. Je voudrais souligner et je regrette l'absence maintenant récurrente de Madame Marie Calero à la participation de ce travail. Je voudrais remercier au moment même l'ensemble des agents qui accompagnent notre travail, donc plus particulièrement Madame Chantal Labattu, Monsieur Alexandre Houpert qui est monté au créneau pour nous aider sur beaucoup de points, Madame Carole Ross évidemment, Madame Vanessa Julien pour l'aspect financier des choses et évidemment tout le service technique dédiée aux déchets sur notre territoire. S'occuper des déchets, c'est un sujet très complexe et en même temps, c'est captivant parce que c'est un défi pour l'humanité. Donc, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de conscience aussi. De ce rapport, je ne voudrais pas rajouter quelque chose de trop pesant parce qu'il est déjà, je trouve, assez... assez lourd de données et je ne voudrais pas le rendre indigeste par des commentaires trop importants. Ceci dit, quand même, quelques points à relever qui me semble important pour nous situer un petit peu, puis surtout pour les élus qui n'auraient pas eu le temps d'en prendre connaissance. Il est important de noter notre position dans le paysage général en matière de déchets. Donc, que dire sinon que notre production annuelle d'ordures ménagères est toujours en légère augmentation, effectivement, avec une progression qui diminue, c'est-à-dire que l'année précédente, on constatait une augmentation de 4,5% de production annuelle de nos ordures ménagères. Cette année, on en constate 2%. Alors, vous allez me dire, c'est toujours une augmentation, oui, mais elle est moins pire. Donc, quand même, vous dire aussi que par rapport à la moyenne par habitant au niveau régional, donc nous situons à 341, un peu plus de 341 kilos par habitant par an, et la moyenne régionale, elle, est de 381 kilos par habitant, et la moyenne nationale est de 350 kilos par habitant par an, source ADEME évidemment. Donc, vous voyez qu'on est plutôt bons élèves. Ceci étant, c'est encore trop. C'est encore trop de production de déchets. Donc, on essaie de travailler autant que l'on peut sur des décisions que l'on souhaite le plus efficaces possible. 2021 aura vu, parmi ces décisions, l'heureuse nouvelle d'avoir une déchetterie au top niveau avec Interval. Et on remerciera au passage le travail de particulier du président, de l'ancien président Perron, Christian Perron, qui a œuvré à ce travail colossal, avec le soutien évidemment d'Anthony Zilio. Notre territoire est aujourd'hui équipé d'une déchetterie top niveau. Elle est extrêmement agréable, elle est extrêmement confortable et extrêmement bien équipée. Et d'ailleurs, on peut remarquer que plus de déchets arrivent sur notre déchetterie, plus de tri. C'est un très bel outil pour notre territoire. Et 2021 aura vu donc cette année avec cette force mise en place, cette nouvelle force mise en place sur notre territoire. On doit remarquer aussi que 2021 aura conforté une convention et un partenariat avec le Pied à l'Étrier et la mise en place d'une ressourcerie sur le site même de cette nouvelle déchetterie. Et pour ceux qui traversent cet espace, eh bien, écoutez, c'est le minimum que de dire que cette ressourcerie est un franc succès. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la prise de conscience de notre façon de consommer et de traiter tous les objets dont on ne veut plus et de prendre conscience de l'importance de donner une seconde vie à tous ces objets qui peuvent encore servir plutôt que de les jeter. Au passage, donc, ça nous aura permis, sur 4 mois seulement d'observation sur l'année 2021, 25 tonnes de moins de déchets qui auraient été jetés tout simplement et qui, là, ont été réutilisés. Donc, ça nous permet de penser pour l'année 2022 à des résultats plus importants encore. Je veux souligner ici les actions qui sont menées aussi d'animation auprès du public par cette même équipe et qui viennent dans les villages ou dans la ville de Bolène, animer sur des points spécifiques que l'on choisit évidemment ensemble, sur des programmes d'animation que porte le Pied à l'Étrier. Sur la commune de Mornas, on est en train de travailler sur notre projet, puisque c'est un plan qui fait le tour des communes. Donc, nous aurons le 8 octobre prochain une animation auquel vous êtes tous conviés pour essayer de faire prendre conscience à nos administrés de l'importance de traiter nos déchets avec respect et amener à une réflexion sur qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux faire vivre encore ces objets qui peuvent servir. Ça doit nous amener aussi à notre façon de consommer et de prendre conscience que le superflu n'a plus la place dans nos vies. Car chaque fois que l'on consomme, on produit plus de déchets. Donc ça, c'est tout un travail qu'on souhaite soutenir, d'aller vers les administrés, prendre la parole, comme en son temps l'a fait le CIVOM du Massif du Chaux, et comme on a pu mesurer l'impact que ça a pu créer avec du porte-à-porte, aller voir les gens, expliquer, et faire prendre conscience. Il y a une dimension pédagogique qu'on ne doit pas lâcher. Les résultats ont été là, et c'est à nous de continuer ce travail. Donc on va le faire avec le pied à l'étrier ou avec d'autres équipes d'animation. Ça fait partie du programme futur. Vous dire quoi encore en quelques mots pour pas alourdir les choses, mais prendre conscience de ce qui relève de notre territoire proprement dit. Eh bien oui, c'est vrai. Il y a eu une évolution du coût du traitement des ordures ménagères et encombrant la tonne sur notre territoire. Les comptes sont transparents, vous avez été chaque fois amené à constater avec nous, équipes qui sommes au plus près du terrain, ce que cela signifiait, puisque toutes les décisions sont prises évidemment par délibération. Oui, on a vu une évolution des tonnages, et notamment des déchets issus des déchetteries, mais en même temps, si on met des déchetteries plus accueillantes, faut-il s'interroger sur ce plus de déchets, c'est plutôt presque une bonne nouvelle quelque part. Ne pas s'offusquer inutilement sur des chiffres qui ont du sens. Ensuite, vous avez vu passer tout au long de l'année des avenants à nos marchés à travers des commissions d'appel d'offres qui ont fait qu'effectivement le coût du traitement a explosé. Si on a voulu changer de prestataire, c'était un des sujets, effectivement, cette non-maîtrise du coût du traitement qui nous inquiétait et qui nous a amené à réfléchir autrement et à faire d'autres choix. Et enfin, évidemment, on a largement communiqué là-dessus, le président a pris souvent la parole pour expliquer ce qui se passait, des choses qui ne nous appartiennent pas, des décisions que l'on subit mais que l'on ne choisit pas. Et je veux parler là de l'augmentation de la TGAP, qui a donc pris, ne serait-ce que sur l'année de 2021, plus 12 euros de la tonne. Donc c'est vrai, c'est pas un délire que de dire les coûts de traitement supportés par la collectivité en 2021 subissent une forte augmentation. C'est un constat que nous partageons. Ça signifie aussi que nous nous sommes mobilisés pour essayer d'avoir des réponses. Ça signifie que nous avons fait d'autres choix et que nous avons confiance à l'avenir et à ce que nous voulons mettre en place. Vous noterez aussi, pour ceux qui ont pris le temps de lire les chiffres, qu'il y a quand même la somme de 260 000 euros qui sont impactés sur l'année 2021, mais qui concernent l'exercice 2020 à travers un effet rétroactif sur l'avenant. Donc j'espère que tout le monde a pu lire cette transparence des comptes. Et enfin, vous dire donc que lorsque en 2017, on a transféré la compétence déchets à l'Interco, juste comme ça, pour avoir un chiffre à la volée, la TGAP était de 68 euros hors taxe de la tonne, elle est aujourd'hui à 112 euros. Voilà, ça explique quand même un mouvement, d'abord des conditions qui ne sont plus du tout les mêmes, entre 2017 et 2021, les choses ont extrêmement changé, et la société nous pousse à réfléchir ardemment à beaucoup plus de changements encore, parce que, comme je le disais en introduction, le déchet est un vrai défi pour l'humanité. Évidemment, on assume cette évolution des coûts qui a impacté le montant de la taxe des ordures ménagères. On s'est largement exprimé là aussi et on a soutenu la proposition du président de la commission des finances, Christian Perron, qui nous a sollicité sur d'abord la mise en conformité avec ce que la Chambre des comptes nous appelait à faire et ensuite la nécessité d'augmenter des recettes sur ce chapitre et rappeler aussi cette lucidité qu'il faut avoir que malgré cette augmentation de la taxe des ordures ménagères, nous ne couvrons toujours pas le coût du service, loin s'en faut. Voilà, finir sur une note d'espoir puisque l'adhésion au CIP pour l'année 2022 nous laisse entrevoir donc une maîtrise des coûts et très certainement la confirmation d'une économie. Et puis enfin, pouvoir gérer par nous-mêmes, entre maires, à travers un syndicat, cette compétence si particulière. J'ai fini, Président.
Merci, Madame Ricariatil. Madame Calero. Allez-y, mesdames, je vous en prie.
Je vais répondre à Madame Rica qui m'a interpellée sur mes absences récurrentes aux commissions, alors que j'étais absente qu'à une commission. Je voudrais informer Madame Ricard que j'ai des obligations, moi aussi, envers la jeunesse. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Moi, j'agis. Et lorsque je vais jeter mes poubelles, je vois comment cela fonctionne. Je n'ai pas besoin d'aller en commission. Et je me demande, Madame Ricard, vous avez besoin de moi en commission pour faire avancer les dossiers ? Voilà, ça m'interpelle beaucoup, ça.
Je peux vous répondre, madame ?
Non, mais attendez, elle va finir sa question.
Je vais parler du rapport maintenant. Donc, ce bilan de l'année 2021 est l'avant-dernier rapport de transition avant le transfert vers le CIP, qui se traduira, comme nous l'avons démontré, par une explosion des coûts et par l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constatée déjà sur notre taxe foncière. La dérive du coût de traitement est excessive, puisque l'écart de prix avec le CIP, qui était de seulement 1 euro lors de notre gestion, a dérivé par la suite de votre laxisme à 11 euros.
S'il vous plaît, s'il
mais
vous plaît.
Encore, aurait-il fallu que vous preniez le temps de négocier les tarifs comme nous le faisions ? Il apparaît encore les anciennes entreprises de collecte pour l'exercice 2021 sous ce rapport et sous votre autorité ou plutôt votre laxisme. Leurs prestations étaient déjà discutables puisque, comme vous l'a rappelé François Morand hier au conseil municipal, des poubelles sont restées défoncées pendant des mois. Actuellement, suite au renouvellement des contrats, la nouvelle entreprise, par un manque indéniable de professionnalisme, a produit de graves dysfonctionnements concernant la collecte. Hier, en conseil municipal, nous vous avons demandé une copie du contrat négocié avec la compagnie en charge de l'enlèvement des ordures ménagères. Nous aimerions également avoir une copie du cahier des charges initial. Cela nous permettra, entre autres, de savoir quelles sont les ressources et références de cette entreprise qui ont pu orienter votre choix calamiteux. Vous allez nous répondre comme hier soir que vous n'êtes pas responsable des erreurs commises. Selon vos dires, les responsables sont soit les techniciens de service, soit les bureaux d'études en charge des marchés que le contribuable paye au prix fort, soit la commission d'appel d'offres que, soi-disant, vous ne présidez pas, ce qui est faux puisque vous êtes membre de droit. À force de mentir, vous en venez à dire que des bêtises, mais le plus inquiétant est votre lâcheté, monsieur Zilio, envers les membres de votre commission, vos collègues à qui vous incombez le choix des prestataires.
Pas du tout.
Comme votre patron Macron, vous êtes capable de dire tout et son contraire, car récemment, vous nous aviez dit avoir écrit le rapport du SPANC. Par contre, vous n'êtes pas capable de faire un marché, puisque vous devez faire appel à des avocats et bureaux d'études. À vouloir toujours vous mettre en avant, vous en devenez ridicule. En ce qui concerne les colonnes de recyclage, bien souvent pleines quand les gens viennent les utiliser, ce qui génère des dépôts sauvages, des envols de déchets le long des rues, des frais de nettoyage pour les communes et perte de volume de matière recyclable. Pourquoi mettre un argent considérable sur la communication pour le tri ? Faire culpabiliser les contribuables parce qu'ils ne trient pas, ce qui est faux, puisque nous avons pu constater par des containers bondés, mais qui ne sont pas vidés, et cela est de votre responsabilité. Il a fallu faire le tour de la ville afin de trouver un container qui puisse recevoir nos déchets recyclables, et bien souvent repartir bedouille avec à la maison. Vous avez dû recevoir bon nombre de courriers de contestation à ce sujet. Dans les écoles, vous souhaitez éduquer les enfants à recycler, ce qui est très bien, Mais dans les coulisses, en cuisine, quand on sait que les déchets recyclables sont jetés dans les bennes à ordures ménagères par faute de containers adéquats, nous pouvons nous demander si vous ne vous moquez pas des usagers. Quant au personnel, il est dit très peu de choses. Nous constatons une augmentation d'agents contractuels de 2020 à 2021. Comme le dit la Cour des comptes, y a-t-il des augmentations d'arrêt de travail ? Y aurait-il une souffrance du personnel ? Le changement quotidien des plannings entre les deux déchetteries ne perturberait-il pas les agents ? Les conditions de travail à la nouvelle déchetterie de Mondragon, comme le manque de local et la possibilité de se mettre à l'abri été comme hiver, sont-elles respectées ? Mais pour répondre à ces questions, faut-il prendre le temps de recevoir les agents, quel que soit le nombre, les écouter et non les mépriser, ou pire, les ignorer ? En résumé, le rapport présenté ce soir démontre indéniablement un manque de travail de votre part, et les Bolénois qui ont voté pour vous commencent à déchanter et regretter d'avoir cru à votre slogan « Un Bolénois pour Bolène ».
C'est la cinquième année de votre gestion de la politique déchets. C'est, je crois, le plus beau symbole également de votre échec. Les rues sont sales, les PAV immondes, les tonnages augmentent sans cesse sans que vous conduisiez d'action de prévention sur la production de déchets. C'est une catastrophe. D'ailleurs, madame la présidente de la commission a bien dit qu'il fallait maintenant s'y mettre et faire de l'explication pédagogique. Donc c'est bien la preuve que peu de choses sont faites. Les membres de l'Assemblée doivent savoir que lorsque vous trouvez des coupables de dépôts sauvages, ça s'est passé hier en conseil municipal, on a trouvé des coupables de dépôts sauvages, mais on les exonère de la charge que vous avez voulu, est énorme. Parce que nous avions mis 130 euros, vous avez mis 500 euros, mais si vous exonérez, effectivement, vous faites l'effet inverse, c'est-à-dire que vous cassez ce qu'on appelle la peur du gendarme. Mais bon, c'est votre politique, vous en êtes le responsable et ça fait doucement rigoler. Alors, les dépenses sont pharaoniques, hein, notamment avec cette nouvelle déchetterie de Mondragon, parce que vous vantez les mérites, mais il faut parler des chiffres. Les résultats sont médiocres, malgré l'augmentation des possibilités de collecte des déchets recyclables, pardon. Vous réussissez la prouesse de faire baisser les tonnages collectés. Les tonnages collectés sont en baisse. Page 28, parce qu'on ne va peut-être pas en commission, mais on lit les rapports. Page 28, les chiffres sont terribles. Le recyclage du verre et des emballages est en baisse, alors que les habitants, par les médias nationaux, sont martelés à longueur de journée sur les déchets et le réchauffement climatique. Eh bien, ici, la collecte du verre, qui quand même est bien payée, hein, quand on le revend, c'est bien payé, baisse. Il faut dire que, comme le disait Marie, l'état des PAV, le fait qu'ils soient toujours pleins, rarement vidés. Alors, j'habite pas Bolène, vous me direz, ben ça, c'est l'argument de monsieur Zilio.
C'est la vérité.
C'est j'ai perdu les élections et j'habite pas Bolène. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Bolénois qui regrettent d'avoir élu un Bolénois, non pas parce qu'il est Bolénois, mais parce qu'il est incompétent. Alors, les chiffres, donc je le disais, sont terribles. La collecte est en baisse, l'état des PAV est catastrophique, et vous devez lancer impérativement, on vient de nous l'expliquer, une politique ambitieuse pour stimuler le recyclage. C'est assez simple à comprendre, les déchets recyclables constituent une recette pour la collectivité, car les matériaux sont rachetés, comme je le disais tout à l'heure. D'un côté, ça permet de diminuer les frais liés à la destruction et à la TGAP, qui augmente. Vous l'avez signalé, madame, avec beaucoup de conscience, c'est pas de votre faute, on le sait, mais rien n'est de votre faute. Et de l'autre, cela constitue une recette au budget. Enfin, c'est évidemment bon pour l'environnement en général de réutiliser les matières existantes. Là encore, les habitants souffrent de votre manque de vision et de votre impréparation, car elle a pu le constater, pardonnez-moi, lors de commissions, il y avait une impréparation totale de ces commissions. Les questions étaient posées, on n'avait pas les réponses tout de suite. Elles devaient attendre pour les avoir, attendre et attendre. Bon, mais ça, il ne faut pas en parler. Donc, les habitants, je le disais, souffrent. Et même si j'habite pas Bolène, je peux vous dire qu'on m'appelle, monsieur. Parlons déficit maintenant, parce qu'il y a un déficit. Votre gestion conduit directement à un appauvrissement de notre territoire pour les entreprises et pour les particuliers. Après des années de budget déficitaire depuis 2017, vous avez décidé de modifier la présentation du rapport en prenant le déficit dans le budget général. C'est malin, et ça se voit. La situation est toujours aussi grave, mais les choses, comme, en le faisant comme ça, se voient moins. Ainsi, à la page 43, hein, vous pouvez tous y aller, on a un déficit de 1,7 million d'euros en fonctionnement. 1,7 million d'euros en fonctionnement et 2,7 millions en investissement. Ce qui fait un déficit de 4,4 millions. Je reconnais, Marie, que tu manques à la commission. Là, franchement, et où tu manques le plus, d'ailleurs, Marie, c'est que si vous allez à la page 43, toujours à page 43, et que vous prenez le petit tableau, je pense que les yeux avertis l'ont vu, le tableau est totalement erroné. La calculette, elle n'a pas fonctionné. Ou alors, vous avez tellement voulu magouiller que ça n'a pas marché. En effet, on voit que vos dépenses s'élèvent, hein, page 43, à 2 689 476,45 euros. Mais on a des subventions, on a des dotations, hein, il y a le calcul qui est fait. Et malgré ce, on arrive toujours à 2 689 476 euros. Donc, je pense qu'il y a un problème de calculette. Et Marie, qui n'assiste pas aux commissions, l'a vu elle aussi, bien évidemment. Donc voilà, cette politique intercommunale n'est pas gérée. Elle n'est pas gérée, désolée de le dire. Et je veux souligner quelque chose quand même, hein. C'est qu'effectivement, comme l'a dit Marie, et je vous invite à voir l'enregistrement de la séance du conseil municipal d'hier. Marie l'a dit, et je le redis. Effectivement, monsieur Zilio, à 3 reprises, vous avez dit que c'était pas de votre faute sur le marché, que c'était pas vous qui présidiez la commission. Vous pouvez aller le voir, c'est sur la vidéo, que vous ne présidiez pas la commission, que c'était la faute des techniciens et la faute du bureau qui est pris. Vous savez, on a des assistances à maîtrise. Et donc, ces gens-là travaillent pour vous d'une façon très onéreuse pour vous faire des dossiers, normalement, sans problème. Et vous avez porté la responsabilité sur les 3. Sur les 3. C'est jamais vous. C'est Marie-Claude Bompard, c'est l'État, c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, c'est tout, mais jamais vous. Et pourtant, vous concentrez tous les pouvoirs. Mais il est bon de dire que Marie-Claude Bompard n'habite pas Bolène. C'est tellement un bon argument. On cache tellement de misère derrière ce petit tapis que vous avez. Alors, voilà, c'est une, comme je le disais, une politique, une gestion hasardeuse, plus qu'hasardeuse. Le déficit cumulé, même si l'on additionne des chiffres en partie faux, atteint les 4,4 millions d'euros juste pour cette année 2021. Depuis 2017, vous n'avez fait qu'aggraver le déficit. Ce sont les habitants de nos communes qui payent les fruits de votre gestion. Ça leur coûte de plus en plus cher, ils s'en rendent compte. Et puisque vous avez, comme l'a dit Marie, augmenté les impôts dans un contexte d'inflation exponentielle. Parce que là, je le redis, vous aimez à dire que j'habite pas Bolène, mais moi j'aime à dire que vous avez en exemple une gestion calamiteuse, celle de votre président, M. Macron, que vous reproduisez les mêmes erreurs et que les mêmes erreurs provoquent les mêmes désenchantements et les mêmes mécontentements et quelquefois même colère parmi vos habitants.
Madame Ricard, je vous laisse peut-être dire quelques mots, sinon je vais y répondre.
Oui, moi je veux bien répondre. Je veux bien répondre à Marie Calero quand même, puisqu'elle m'a posé la question. Avez-vous besoin de moi en commission ? Madame Calero, je crois que notre pays est dans une telle situation qu'on a besoin de tout le monde. Moi, faire de la politique, ça ne m'intéresse pas. Faire de tout un sujet politique, ça ne m'intéresse pas. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Vous avez toujours été très bien reçu à la commission déchets ou environnement. J'y ai toujours veillé. Et il me semble qu'on serait plus intelligent que de traiter les problèmes en se mettant autour de la table et en apportant chacun notre vision des choses que de s'étirer à boulet rouge comme on le fait là en séance publique. Voilà. D'autant que, madame, vous êtes à la place la plus confortable, celle où l'on ne fait rien et où l'on commente tout.
Bien, merci. Juste quelques mots sur ce rapport annuel. Quelques mots pour répondre à ce que vous venez de dire, comme s'il fallait en répondre. Mais en effet, je ne présidais pas la commission d'appel d'offres. Et je le redis, puisque la commission d'appel d'offres est présidée par Françoise Bouclet à la communauté de communes Rhône-Lès-Provence. Donc là-dessus, vous pouvez inventer des mensonges à chaque séance, mais si vous aviez vu le compte-rendu de la commission d'appel d'offres qui est public, dont les contrats sont publics, dont le cahier des charges est public, accessible à tous, vous n'auriez pas commis ce mensonge de dire que je présidais la CAO, puisque c'est public, et d'ailleurs c'est en présence de la répression des fraudes qui vient contrôler les travaux que nous faisons. La deuxième chose, c'est que nous parlons de la déchetterie, nous parlons de ce que nous gérons, et puis il y a la question de la collecte des ordures ménagères. Et la collecte des ordures ménagères, à moins que je ne m'en sois pas rendu compte, mais elle n'est pas pilotée par les agents intercommunaux, elle est pilotée par une entreprise, Ecodéchets, qui vient d'être lauréate de la commission d'appel d'offres, pour laquelle elle a été faite. Et donc, par conséquent, je n'ai pas dénigré, contrairement à ce que vous avez pu faire vous ailleurs, dans d'autres lieux, sur les réseaux sociaux, les techniciens qui ne faisaient pas leur travail sur la question des ruissellements et des coulées de boue, moi je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons pris nos responsabilités sur la question de la collecte des déchets. Et d'ailleurs, je vais vous lire un passage, pourquoi la taxe d'ordures ménagères a augmenté. Il y a deux facteurs principaux qui permettent d'expliquer cette augmentation, à la fois le coût des traitements, en l'occurrence la taxe générale sur les activités polluantes, une taxe imposée par l'État qui explose sous le coût des amendes européennes. Entre 2020 et 2021, la TGAP est passée de 12 à 17 euros la tonne incinérée, soit 41% d'augmentation. Elle était en 2021 à 37, elle est aujourd'hui à 45 euros la tonne. D'ici 2025, la TGAP aura augmenté 108% d'augmentation en 5 ans. De fait, cela a imputé sur les intercommunalités qui assument la compétence liée à la collecte et au traitement des ordures ménagères et donc sur les taxes des administrés. C'est ce que nous avons fait, mais la création prochaine d'une usine de traitement, etc. Les lignes que je viens de vous lire ne sont pas dans le rapport des déchets de l'intercommunalité, puisque l'explication des deux facteurs principaux qui permettent d'expliquer l'augmentation de la TOM, c'est la page de magazine de la ville d'Orange, que je viens de lire, et qui explique pourquoi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a augmenté. Et d'ailleurs, si vous... Non mais, madame Bompard, s'il vous plaît, les menaces, si vous voulez, vous allez voir ce que vous allez voir, on devait voir ce qu'on devait voir, on a vu, on n'a rien vu, vous deviez voir ce que vous deviez voir, vous nous menaciez avec votre cohorte d'amis dans le public que nous allons plus être là dans 6 mois, que si, que là, on a vu toutes les menaces, et dans les faits, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous auriez pu marcher, puisque vous faites partie des deux maires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ont perdu leur mandat, alors que tous les autres dans le Covid l'ont maintenu. Mais parce que vous n'êtes pas compétente et parce que vous ne maîtrisez pas les dossiers. Et c'est pour ça que vous avez été balayée. Parce que sur la question des déchets que vous comparez à 2017, La TGAP n'était pas la même. C'est pas moi qui le dis, c'est votre fils qui l'écrit dans la revue d'Orange. Non mais attendez, et il explique pourquoi il a passé la TOM à 17% quand nous, nous sommes à 12%. Donc vous voyez que là encore une fois, Madame Aubard, je ne vous donnerai rien du tout. Vous l'avez largement eu, ce qui a empêché d'ailleurs Monsieur Mossi de prendre la parole avant de partir. Mais attendez, c'est dommage qu'il n'ait pas pris la parole d'ailleurs, parce qu'on aurait pu parler de la ressourcerie et de tout ce qu'on a pu éviter en tonnage. On constate notamment que sur le tonnage des déchetteries, c'est en forte augmentation, Madame Bompard, s'il vous plaît. Madame Bompard, sur les 1200 tonnes, Madame Bompard, soit vous vous taisez, soit je suspends la séance, parce que, je vais vous expliquer, parce que les coups d'extrême droite, les coups de menton, qui consistent à créer des incidents de séance, parce que vous n'avez rien comme argument, pour finalement soit créer l'incident de séance en quittant la salle, comme vous savez le faire bien souvent, soit en essayant de divertir les autres, ça n'empêchera rien. Je ne crois pas que ce soit ce que je viens de dire qui est minable. Mais regardez ce que vous venez de dire. Et sur la question des déficits, je vais vous expliquer, madame. Vous ne maîtrisez tellement rien que vous n'avez pas compris qu'en 2021, et la renégociation des coûts de traitement qui sont passés de 60 euros la tonne à 112 euros la tonne, comme l'a expliqué Cathy Ricard, nous avons dû rattraper sur l'année 2020 jusqu'au mois de mai, puisque c'est un avenant qui est passé en 2021 et qui est fait rétroactif jusqu'au 1er mai 2020, nous avons dû rattraper de mai 2020 jusqu'à décembre 2020 le coût de l'application rétroactive de la tarification qui s'est appliquée sur 2021, ce qui a alourdi de près de 300 000 euros les finances de notre collectivité sur le rattrapage de la hausse, parce que si nous ne l'avions pas fait, eh bien plus personne n'était en capacité de traiter les ordures ménagère résiduelle de 2020, de mai à décembre, et donc de ce coût de traitement. Donc, moi, je veux bien que vous mettiez chiffre contre chiffre. D'abord, je vais vous expliquer une chose. La question sur le traitement des déchets, sur les ordures ménagères, disons-nous les choses, c'est pas le bilan et le satisfecit d'un élu ou d'un autre. C'est le bilan de ce qui a été jeté par la population. Alors, certes, nous prenons 2% d'augmentation sur les ordures ménagères résiduelles, mais je vous ferai remarquer que nous avons pris de la population. Et sur la question des 1200 tonnes de déchetterie, en effet, nous avons créé cette déchetterie. La question qu'on aurait pu poser en élu responsable, si vous l'aviez été, c'était de savoir à quelle proportion on a pris de l'autofinancement par rapport aux subventions sur la réalisation de la déchetterie. Et là, vous ne pouvez rien dire, encore une fois. Donc, vous gesticulez pour essayer de créer l'incident de séance, parce que nous avons plus d'un million d'euros de subventions publiques pour financer un ouvrage qui permet d'avoir 3 sites sur l'intercommunalité et pour lequel nous l'avons fait. Si il y a moins de papier, madame, et je pensais pas que vous en viendrez là, mais vous me l'avez dit hier, donc je savais que vous en reviendrez ce soir, mais c'est parce qu'il y a eu une forte dématérialisation qui fait que toutes les colonnes bleues, et vous le voyez dans tous les ratios, perdent partout en France près de 20 à 40% de leur capacité puisque les gens ne jettent plus de papier et qu'il y a une forte dématérialisation de toutes les procédures en France et notamment sur la question où les gens ou plus sur les réseaux sociaux ou sur Internet, etc. Sur le verre, c'est pas ce qui s'est passé, madame, mais je vais vous répondre. Sur le verre, si vous regardez les ratios de 2019 ou 2018, nous revenons dans les ratios de 2018 et 2019, ce qui veut dire que l'année de 2020 a fait de la consommation plus de verre sur l'année 2020 par rapport aux autres années. Je viens préciser ici, puisque vous l'avez dit sur la page 28, nous sommes à 512 en 2018, nous sommes à 510 en 2021, donc nous sommes sur la partie du verre en deçà de ce qui est sur 2018 et 2019, et bien en deçà par rapport à 2020, qui a été une forte année où il y a eu beaucoup de verre qui a été recyclé. En ce qui concerne votre politique, parce qu'on juge les politiques sur des actions et sur des faits mesurables, force est de constater que sur la question du tri, lorsque nous avons pris votre succession sur la gestion, nous avons déployé plus de 30 points d'apport volontaire sur le territoire, ce qui a permis, par effet de levier, de valoriser le verre, le plastique et le papier, et de faire en sorte d'en déployer d'autres, ce qui n'était pas forcément votre cas. Où je vous rappelle, chère madame, que durant 12 ans, 1000 Bolénois ont quitté votre ville, alors que vous étiez aux responsabilités, et que, par conséquent, nous avions des tonnages qui n'étaient pas cohérents par rapport à la population qui était partie. Donc je veux bien tout entendre, si vous voulez. On peut me faire des procès à longueur de journée, on peut me faire parler de Bolénois que vous avez croisés pour dire qu'ils vous ont dit ça, d'autres m'ont dit autre chose, mais si vous voulez, comme on n'est pas à la cour maternelle, et que je pense qu'on en est sorti, enfin, visiblement pas pour vous, c'est sur ça. Alors, je vais vous dire quelque chose. 12% de TOM à Bolène, c'est ce qui était pratiqué dans le cœur de ville, c'est-à-dire à peu près pour 1300, 1400 foyers. Je comprends que vous soyez indigné, mais j'ai aimé que vous auriez apprécié, juste aimé que vous auriez apprécié. Non, mais si vous voulez me corriger, Madame Professeure Bompard, vous pouvez. Mais force de donner des leçons de droit, pas aux bonnes personnes, de français aux mauvaises non plus, force est de constater que vous payez aujourd'hui une taxe TOM de 14,4% à Orange, et ça ne vous dérange pas quand les Bolénois la payent de 12 et que vous la payez 14,4 à Orange. Donc ce qui veut dire par là, c'est que si ça avait été un président qui eût été, excusez-moi, mais à un moment donné, Madame, s'il vous plaît. Oui, ben certainement. Eh bien, encore heureux, sinon vous n'auriez pas pu être maire. Mais même si vous y venez 3 fois par mois, c'est important quand même de venir préciser que, un, les choses sont faites en responsabilité. Deuxièmement, qu'en effet, la société éco-déchets ne remplit pas forcément ses missions. Nous les avons sanctionnées. Nous sommes à près de 80 000 euros de pénalités sur la société éco-déchets. Elle a pu contester ces pénalités. Nous sommes en train d'affiner les choses. Nous avons pris des décisions sur la question de cette société qui ne donne pas gain de cause et soit sur le ramassage, soit sur la périodicité. J'ai plus l'occasion de vous le dire. Et donc, je vous le redis. En tout cas, on peut souffler les braises de la misère, comme vous aimez bien le faire à longueur de journée, après les ruissellements, les inondations, les déchets, parce que c'est finalement votre fonds de commerce. Et je crois que d'ailleurs, beaucoup s'en sont rendus compte. Mais nous prenons les choses avec beaucoup de gravité et de responsabilité. La vice-présidente Cathy Ricard reçoit la société toutes les semaines pour faire le point sur les ramassages. Il y a un travail colossal qui est fait par les services, notamment, tu as bien fait de le dire, Chantal Labattu, Alexandre Oupert, Vanessa Julien et l'ensemble des services qui travaillent sur ça pour venir justement apporter des correctifs. Je salue aussi le travail des personnels de l'accueil qui reçoivent énormément de coups de fil par rapport à ces problématiques-là que nous sommes en train de résorber et pour lequel, je le dis très publiquement devant tous ceux qui nous regardent, je m'en excuse. Mais nous prenons nos responsabilités sur ces sujets-là et je pense que nous sommes au rendez-vous, notamment sur la question du développement durable, comme l'a dit Cathy Ricard, sous l'impulsion de Christian Perron, d'avoir pu porter un centre de revalorisation qui a permis quand même, en 4 mois, de dégager 25 tonnes de seconde vie à des déchets, ce qui n'est pas négligeable et qui permet en plus de vider les maisons, de permettre à d'autres personnes de pouvoir remplir leur maison et d'avoir une table et des chaises à moindre coût. Et donc, je pense que c'est important. D'ailleurs, les chiffres que vous évoquez nous montrent, en pages 12 et 28, que la production annuelle d'ordures ménagères a subi une augmentation, mais la progression diminue par rapport à 2020. Elle était de plus 4,5 points en 2020, elle est de plus 2 points contre, et que les moyennes, je le redis, mais que la moyenne nationale est de 354 kilos de déchets par an, nous sommes à 341, et que la région est à 381 kilos par habitant, et nous sommes à 341, preuve s'il en est que nous avons un territoire qui produit moins de déchets que la moyenne nationale et régionale, et que nous portons une politique qui justement permet de trouver des points d'apport volontaires pour trier mieux. Sur la question du lot que vous avez évoqué, pourquoi les ordures ménagères et pourquoi le tri ont été assemblés dans un seul lot, puisque vous avez attaqué le bureau d'études qui nous a conseillé. Il nous a conseillé de mettre ensemble le lot de PAV et d'ordures ménagères pour éviter qu'il y ait des accords qui puissent se faire, des accords de couloir qui puissent se faire entre deux sociétés, l'une de bénéficier du tri, l'autre de bénéficier du tonnage des ordures ménagères, et que par conséquent, la totalité de ce lot revient à la fois au tri et à la fois aux ordures ménagères. Voilà ce que je voulais vous dire, et peut-être rappeler que l'adhésion au CIP permet de stabiliser cette inflation des coûts de traitement, parce que, au vu de la commission d'appel d'offres, d'ailleurs, où nous avions eu personne qui a répondu, je crois que l'avenir va au regroupement, et pas à rester seul, puisque dès qu'on dispose de sociétés qui peuvent avoir la politique de vie ou de mort sur la question des déchets, quand il n'y a pas d'autre exutoire, quand il n'y a pas d'incinération et qu'il n'y a qu'un seul exutoire, peuvent faire payer le prix des déchets à prix fort, ce que nous ne souhaitons pas. Et c'est pour ça que nous serons à plus fort sur les centaines de milliers de tonnes que regroupe le CIP par rapport à nos 18 000 tonnes que nous traitons ici à Rennes-Provence. Le reste, c'est de la littérature, mais nous en avons l'habitude avec vous. La question suivante, il s'agit de passer sur la subvention 2022 sur le réseau entreprise Rhône-Durance. Madame Desfonds s'excuse, et donc Monsieur le Premier Vice-Président, c'est vous qui rapportez cette question.
Oui, merci. Donc effectivement, ce rapport numéro 8, c'est la subvention 2022 au réseau entreprendre Rhône-Durance. Je vais vous passer les vues et les considérants, si ce n'est que le considérant que le réseau entreprendre continue l'action débutée en 2019 et qui a identifié des entreprises susceptibles d'être accompagnées par le dispositif booster, à savoir des entreprises en développement. Ensuite, vous dire effectivement que le projet décrit ci-dessus présente un coût de 144 903 euros et qu'à ce titre, il est demandé à la CRLP une subvention exceptionnelle de 5000 euros. Donc, il vous est demandé d'attribuer une subvention annuelle à l'association Réseau Entreprendre au titre de l'année 2022 pour un montant de 5000 euros. Donc pour ce fameux projet, et d'autoriser le président à signer tout document se rapportant ce dossier et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 9, il s'agit d'un avenant à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage garderie périscolaire que nous avions passé. Et donc il s'agit de revaloriser l'article 6 de la convention sur le budget prévisionnel de la construction de la structure et d'actualiser au vu des justificatifs le montant financier de l'opération pour valider un avenant de convention de maîtrise d'ouvrage et la participation à la CCLRP à hauteur de 457 421,06 € hors taxes dans le cadre de la construction d'un accueil de loisirs périscolaire et d'une garderie périscolaire reconnue d'intérêt communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité avec l'abstention de la Ligue du Sud. Question numéro 10, il s'agit de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2023. Vous retrouverez sur demande des SCI et entreprises qui souhaiteraient être exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puisqu'ils font appel à une société privée qui évacue leurs déchets et donc n'ont pas de raison d'être assujettis à la TOM pour 2023 et de valider les exonérations 2023 qui sont mentionnées dans ce tableau. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 11, il s'agit de la convention de remboursement de la dotation globale décentralisée en ce qui concerne l'organisation des transports urbains. Monsieur Perron.
Donc, la ville de Boulogne est compétente en matière de transport urbain jusqu'au 30 juin 2021, a perçu la dotation globale décentralisée autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour la totalité de l'année 2021. Donc, la convention qui a été annexée donc, à l'ordre du jour détaille les modalités de remboursement à la CCRLP de la moitié de la somme perçue. Donc, après l'avis favorable donc, de la commission des finances du 13 septembre 2022, le Conseil communautaire est donc appelé à valider la convention de remboursement.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Le dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 12, il s'agit d'un fonds de concours sur l'avenant, la création d'une maison des associations à Mornas. Monsieur Perron.
Donc, concernant la maison des associations à Mornas, avenant numéro 5, donc je ne vais pas vous faire en lecture ligne par ligne des modifications qu'a connues ce fonds de concours. Celui-ci a plusieurs fois évolué, à la fois dans son objet et dans son montant. Considérant que les fonds de concours voirie et salle des fêtes ont été soldés par la ville de Mornas, il est donc proposé d'affecter les crédits non consommés sur ces deux fonds de concours vers les fonds de concours 2018-07 et ainsi le porter à 432 000 euros. Cette question a reçu l'avis favorable de la Commission des finances du 13 septembre cette année et le Conseil communautaire donc est invité à valider le nouvel avenant de ce fonds de concours.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 13. Il s'agit cette fois de la convention entre la communauté de communes et la commune de Bolène relative au reversement de la taxe d'aménagement. Monsieur Perron.
Alors, concernant la taxe d'aménagement qui doit être reversée obligatoirement par la loi des finances pour l'année 2022, prévoit que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement à la SPI est donc obligatoire, donc compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Des conventions sont à mettre en place avec chaque commune et font l'objet des questions numéro 13 et 16. Donc les clés de reversement qui ont été décidées en commission des finances pour les quatre communes levant la taxe d'aménagement ont été fixées à 100% concernant les zones d'activité et pour les ZAE, et 70% concernant les zones d'activité. Cette décision a fait l'objet d'un favorable de la commission des finances et donc on demande au conseil communautaire de valider cette question-là.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention de la Ligue du Sud? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Merci. La question numéro 14, il s'agit cette fois sur la commune de La Palue.
Alors, la convention relative à la ville de La Palue reprend les mêmes clés et précise également les zones soumises à ce reversement. Et le conseil communautaire est appelé également donc, à valider la convention relative au reversement de la taxe d'aménagement de La Palue.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 15, il s'agit de la commune de Mondragon.
Donc, c'est exactement pareil, dans la convention relative à la ville de Mondragon, on reprend les mêmes clés et précise également les zones soumises à ce reversement. Donc, le conseil communautaire est appelé à valider la convention relative au reversement de la taxe d'aménagement de Mondragon.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 16, il s'agit de la convention entre la CCRLP et la commune de Mornas relative au reversement de la taxe d'aménagement.
Donc effectivement, la convention relative à la ville de Mornas reprend effectivement les mêmes clés et précise également les zones soumises à ce reversement. Donc le conseil communautaire est appelé à valider la convention relative au reversement de la taxe d'aménagement de la ville de Mornas, comme pour les autres communes.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Aussi adopté à l'unanimité, je vous remercie. Abstention de la Ligue du Sud. La question 17, il s'agit du renouvellement de convention de mise à disposition d'un agent CCRLP auprès de la commune de La Palue. Il s'agit donc d'un agent dont vous avez le nom, qui du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023, pendant la période scolaire, à hauteur de 211 heures et demie, d'approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition et de m'autoriser à signer les pièces relatives à ce renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 18, il s'agit de la convention de renouvellement de mise à disposition de la directrice générale des services de la ville de Bolène auprès de la communauté de communes. Il est proposé le renouvellement de la convention de mise à disposition annexée au présent rapport de la directrice générale des services de la ville de Bolène pour la période du 1er novembre au 31 octobre 2023. Il m'autorisait à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de cette délibération. Il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Et je crois que nous avons fini. La prochaine séance aura lieu le 18 octobre. Non, non, il n'y a pas de rapport. Il est joint à la convocation comme depuis 10 ans, mais il n'est pas débattu. Voilà, vous l'avez fait hier soir, madame. Ça sera demain dans la presse, donc vous le referez avec plaisir. Très bien. Très bien. Mais surtout aux Orangeois, parce que c'est à eux qu'il leur a écrit ça. C'est pas à moi. Parce que moi, je n'habite pas Orange, madame Bompard, contrairement à vous. Très bien. Au revoir. Très belle soirée à vous. Très belle soirée à vous. Très belle soirée.